Vous avez passé un bon moment dans la louange et l'adoration? Super. Donc du coup, c'est moi qui vais apporter l'enseignement de ce matin, comme vous l'avez vu sûrement sur les flyers. Donc déjà, j'aimerais déjà remercier, Bernard, mon pasteur, comme je l'appelle souvent, mon pasteur Bernard et son épouse, Danielle, pour la confiance envers les jeunes. Et merci à toute l'Église aussi, bien sûr. Et aussi merci aux jeunes d'Oxygène. Regarde, ils sont beaux, hein? On va prendre des photos à la fin. Super. Donc, c'était ma petite introduction. Je crois que je ne serai pas long. Donc, comme je ne serai pas long, je demande à ce que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention, parce que je serai vraiment pas long. Bon, je l'espère en tout cas. Je parle beaucoup aussi en même temps. Je n'ai pas de PowerPoint, mais il y aura des versets qui vont s'afficher tout à l'heure. Ce matin, je vais partager avec nous la parole de Dieu et mon thème, ou sinon les sujets, c'est en esprit et en vérité. Si ça ne vous dérange pas, tu peux dire à ton voisin d'à côté, en esprit et en vérité. Amen. Notre passage de base aujourd'hui, c'est dans Jean chapitre 4, les versets 22 à 24. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 22 au verset 24. Verset 22 au verset 24. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est de là que j'ai tiré mon texte ou mon sujet, en esprit et en vérité. Ici, c'est l'histoire de Jésus qui parle avec la femme samaritaine, j'espère que vous connaissez. Et c'était une histoire d'eau et de puits, mais qui va aller jusqu'à la notion de l'adoration. Jésus va révéler une notion très importante à la femme samaritaine sur l'adoration, parce qu'elle avait posé la question. Mais Seigneur, comment est-ce que vous adorez à Jérusalem? Nous, nous adorons à la montagne. Et Jésus va lui dire, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais il y a une chose que j'ai aimée, Jésus va dire un mais. Il dit, mais qu'à cela ne tienne, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais déjà de base dire ce matin qu'il n'est pas question des lieux, mais il est question d'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'est plus dans les lieux. Dieu n'est pas, ne nous recommande pas d'être dans une montagne simplement pour que nous puissions voir sa présence. Dieu ne nous recommande pas d'être simplement à l'église pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous recommande de l'adorer en esprit et en vérité. Et l'une des choses que j'ai aimées, c'est que il parle, il dit que voilà, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais quand il dit un mais, c'est comme s'il change un peu la donne en disant. Mais ce qui est plus important, c'est adorer en esprit et en vérité. Est-ce que je suis en train de dire que la connaissance dans l'adoration n'est pas bonne? Non. Mais ce qui est plus important, c'est que tu adores d'abord en esprit et en vérité. Voilà pourquoi ce matin, on va voir ensemble c'est quoi vraiment adorer en esprit et en vérité. Est-ce que c'est une question de connaissance? Non, je ne pense pas. Amen. L'adoration n'est pas d'abord une question de connaissance, mais une question d'esprit et de vérité. Le Père cherche l'adoration en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce donc adorer en esprit et en vérité? Nous allons commencer par adorer en esprit. Adorer en esprit revient à adorer avec son cœur. Dis à ton voisin, adorer avec son cœur. Plusieurs personnes m'ont souvent posé cette question. Comment je dois faire pour prier? Comment je dois faire pour parler à Dieu? Et souvent, ils veulent, non, je ne connais pas assez la Bible, je ne pourrais pas prier le Seigneur, je ne suis pas assez dans la foi, je suis à peine jeune dans la foi, je ne pourrais pas parler à Dieu. Or, c'est faux. Quand Jésus demande à ce que nous puissions adorer en esprit, il demande à ce que l'être intérieur puisse parler. Et c'est cela le cœur dont je suis en train de parler. Dieu veut que nous puissions amener notre adoration, mais avec le cœur. Bien souvent, lorsque nous adorons, nous pensons plus à s'agenouiller, Un jour, je voyais un frère, un jeune frère, qui cherchait à prier Dieu. Il se mettait à genoux, il se mettait par terre, il s'est levé. Il cherchait comment prier Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. Mais il avait juste à prier avec son cœur. Un jour, une personne m'a dit, je n'arrive pas à prier, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, je n'arrive pas à prier. Je lui ai dit, mais parle avec ton cœur. Parce que de la même manière que tu es en train de m'exposer ton problème, de la même manière tu peux exposer ces problèmes à Dieu. Frères et sœurs, nous devons savoir et nous devons comprendre que l'adoration en esprit que le Père cherche, c'est cette adoration qui s'est faite avec son cœur. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 7, la partie B bien sûr, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu regarde au cœur. S'il y a une chose qui fait plaisir à Dieu dans ton adoration, c'est quand tu amènes ton cœur. L'adoration qui est un amour manifeste envers Dieu, l'adoration qui est une prosternation envers Dieu, cette adoration désire, veut ton cœur. Il ne faut pas que nous puissions toujours à chaque fois parler avec nos bouches, mais pas parler avec nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient dans nos bouches. Lorsque nous louons, lorsque nous adorons, il faut que nous ayons cette notion de se dire, est-ce que mon cœur est dans ce que j'ai fait? Vous savez, lorsqu'on était enfant, moi, quand j'étais enfant, il y avait des louanges, des adorations qu'on chantait en famille, parce que je suis d'une famille chrétienne, et on chantait. Mais que je n'avais pas conscience, tu vois. Je chantais simplement parce que c'était beau, c'était bien, la mélodie, le rythme. Mais c'est maintenant en grandissant que je vois que c'était profond. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, j'ai compris et je commence à adorer Dieu avec mon cœur. Est-ce que les louanges que tu fais, les chants que tu chantes, est-ce que tu les chantes avec ton cœur ou tu les chantes qu'avec ta bouche? Dieu réclame encore ce matin à chacun de nous que nous puissions l'adorer avec nos cœurs, que nous amenons nos cœurs à lui. Amen. C'est important. C'est important. Il n'est pas question de position. Il est vrai que la position, c'est aussi importante, mais ce n'est pas d'abord ça. Le plus important, c'est d'abord le cœur. Et c'est ce qui m'a amené à dire cette phrase, « Qui adore avec son cœur aura le cœur de Dieu. » Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible dit dans 1 Samuel, le chapitre 13, et verset 14, la Bible dit ceci, que Dieu a considéré David comme étant l'homme selon son cœur. Mais en regardant la vie de David, je me dis, mais en quoi est-ce qu'il était l'homme selon son cœur? C'est en lisant le psaume que je comprends que oui, cet homme versait son cœur à Dieu. Il parlait avec son cœur. Quand ça n'allait pas, il parlait avec son cœur. Quand il faisait une bêtise, il parlait avec son cœur. Et je crois que c'est ce qui faisait que Dieu puisse l'aimer. David parlait tellement avec son cœur qu'il a arraché les cœurs de Dieu. Une manière d'arracher les cœurs de Dieu, de voir la présence de Dieu, c'est de parler avec ton cœur. Combien d'athées ont-ils dit qu'ils ont vu Dieu se manifester à eux? Parce qu'ils ont parlé avec leur cœur. Ils ont dit, Seigneur, je ne te connais pas. Dieu, on m'a parlé de toi, je ne te connais pas. Avec son cœur, je veux que tu te révèles à moi. Et Dieu se révèle à de telles personnes. Pourquoi? Parce que c'est les cœurs qui parlent. Parce que c'est les cœurs qui parlent. Amen. Comment savoir si ma prière est correcte? Eh bien, le secret, c'est de parler avec son cœur. Écoutez, lorsque nous parlons avec notre cœur, il n'est pas question de se dire, est-ce que je suis en train de bien parler ou de mal parler? Dieu comprend. Mais l'essentiel pour Dieu d'abord, c'est que tu verses ton cœur. Les autres choses viendront après. Les corrections viendront après. Amen. Et l'Esprit m'avait conduit à dire ces messages à toutes ces personnes qui attendent de guérison, à toutes ces personnes qui attendent, Seigneur, j'ai besoin de ta guérison, guérison physique et tout ça, c'est bien. Mais Dieu m'a dit de te dire ce matin, adore-le. Adore-lui avec les cœurs. Si tu adores Dieu avec les cœurs, vous savez quoi? Tu auras sa main. Vous savez, moi je suis du Congo. Des fois, il y a ces personnes, lorsque tu es un peu riche ou tu es boss, et que tu vas avec ta voiture et tout ça là, et qu'il y a, il y a toujours des jeunes qui viennent et commencent à te louer. Ah ouais, c'est toi le patron, c'est toi ici dans ces quartiers, dans cette rue, c'est toi. Tu dépasses tout le monde et tout ça là. C'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as la gloire. Et puis la personne, pendant quelques temps, elle va sortir de l'argent et va leur donner. Pourquoi? Ils ont tellement glorifié la personne qu'elle s'est sentie joyeuse et elle a décidé d'agir. Il en est de même avec Dieu. Lorsque nous touchons son cœur, sa main puissante agit. Tu demandes chaque fois délivrance, guérison. Parle avec ton cœur. Ton cœur va attirer Dieu et Dieu va donner sa main. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais au pays, nous étions dans une équipe d'intercession de la chorale. Alors, on partait des fois prier, partait chez les gens, prier et tout ça. Et l'une des choses qu'on faisait qui ne ratait jamais, c'était l'adoration. Si on vient, on prie pour peut-être la guérison. On n'allait même pas d'abord prier pour la guérison, la délivrance. On se mettait qu'à adorer. On changeait l'atmosphère de la maison. Une fois qu'on adore, on adore. Et puis, il y a des délivrances qui se faisaient. Il y a des guérisons qui se faisaient. Pourquoi? Parce qu'on a tellement adoré Dieu avec nos cœurs que Dieu est descendu. À chaque fois que vous lisez dans la Bible, Dieu a entendu le cri. En soi, il n'entend pas le cri, il entend le cœur. Mais c'est le cœur qui crie. Amen. Donc, adorer en esprit revient à adorer avec le cœur. Nous parlons du réveil d'Asbury, Asbury, c'est ça, qui vient d'arriver. J'aurais aimé entendre qu'il y avait eu un bon théologien qui a tellement expliqué la théologie que les jeunes ont été captivés. Ils ont dit, bon, on va rester là, on va entendre cette bonne théologie, on va entendre Dieu, tout ça. Non, c'est juste des personnes qui sont venues. Elles sont venues adorer Dieu avec les cœurs. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, ça a emmené d'autres personnes. Nous demandons le réveil, mais est-ce que nous adorons avec le cœur? Est-ce que nous adorons avec le cœur? Nous devons nous poser cette question. Lorsque nous chantons, nous sommes plus concentrés à regarder les paroles ou à chanter ces paroles. Adorer en esprit, deuxième chose, revient à adorer avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 15, le verset 8. La Bible dit, « Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Ici, il s'agissait d'une discussion entre les apôtres, et je crois que c'était l'apôtre Pierre qui a sorti cette parole en disant, « Dieu connaît le cœur des païens et il a préféré donner le Saint-Esprit à ces païens. » Donc, dans ces textes, on nous dit que Dieu a donné le Saint-Esprit parce qu'il connaissait leur cœur. Adorer en esprit, je l'ai dit, il faut adorer avec le cœur, mais il faut aussi adorer avec le Saint-Esprit. Pourquoi adorer avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui permet à ce que notre adoration soit parfaite. Tu vois, lorsque tu adores avec le cœur, lorsque tu pries avec le cœur, c'est bien. Mais c'est comme j'ai dit, tu peux commettre aussi certaines erreurs. Mais qui va venir corriger ces erreurs si ce n'est le Saint-Esprit? Peut-être pas vous, mais moi, il m'est arrivé dans la vie de prier et de dire à Dieu, tue-moi. Tue-moi, je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Voilà, je n'arrive pas à arrêter tel péché, je n'arrive pas à faire telle chose, je n'arrive pas à ceci, pendant que je sais que c'est mal, tue-moi. Mais est-ce que ça, c'était une prière que Dieu voulait? Est-ce que Dieu voulait que je meure? Non, il fallait que le Saint-Esprit vienne me répondre. Et très souvent, et bien souvent aussi dans nos prières, on peut commettre des erreurs, mais c'est à l'aide du Saint-Esprit qu'on revient. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Prier avec le cœur, je l'ai dit, c'est bien, mais prier avec le Saint-Esprit, c'est mieux. Parce que le Saint-Esprit collabore avec notre cœur. Amen. C'est tellement important. Parce que lorsque le cœur veut de Dieu, il nous donne son esprit. Et la Bible peut dire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10 à 11. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. La Bible dit, « Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » Amen. Un jour, j'ai posé la question à une de mes grandes sœurs. Parce que j'ai remarqué que lorsque j'étais petit, j'étais un petit garçon qui aimait bien les choses de Dieu. Je l'ai remarqué en grandissant. Quand j'étais petit, je ne remarquais pas. J'aimais bien les choses de Dieu, je posais des questions. Je me rappelle, je suivais papa au couloir. « Papa, c'est comment les paradis? Ça sera comment? Jésus, c'est comment ?» Donc, je posais un peu souvent ces questions-là. Et mon père, à chaque fois, comme ma mère était décédée, bon, j'étais encore petit, alors j'ai dormi avec mon père et à chaque fois, il me donnait le Nouveau Testament. J'ai lisé. En même temps, il travaillait ma lecture pour que j'apprenne à lire, mais en même temps, je lisais la Bible. Donc, j'ai grandi un peu comme ça, dans une famille chrétienne. Et un jour, j'étais avec ma grande sœur, on parlait de nourriture. Elle m'a dit, « Israël, c'est quoi ton plat préféré ?» J'ai dit, « Ouais, moi j'aime ceci, cela. » Et je lui ai posé la question, « Toi, c'est quoi ton plat préféré ?» Elle m'a répondu. Et à un moment, j'ai eu une question. J'ai dit, et Dieu, il mange quoi? C'est quoi sa nourriture? Il mange quoi, Dieu? Ma grande sœur m'a répondu, Dieu ne mange pas. Mais s'il y a une nourriture que tu peux lui donner, c'est l'adoration. S'il y a une nourriture que tu peux lui donner, c'est l'adoration. Maintenant, nous étant humains, est-ce qu'on mange la même chose toute la semaine? Non, c'est selon mon goût. Si je vais manger aujourd'hui telle chose, je mange, demain je mange autre chose, ainsi de suite. Donc c'est selon mon goût que je mange. De la même manière, si nous devons donner l'adoration à Dieu, c'est selon son goût. Mais nous ne connaissons pas son goût, d'où le Saint-Esprit qui va dans les profondeurs de Dieu. Il nous dit, non, aujourd'hui, ne prie pas comme ça, vas-y dans tel sens. Là, Dieu sera content. Là, tu vas donner les repas qu'il faut à Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église n'existe pas sans Saint-Esprit, frères et sœurs. Un chrétien sans Saint-Esprit, ça n'existe pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons désirer, aimer. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Le Père cherche des adorateurs en esprit. Mais sans le Saint-Esprit, tu vas adorer comment? Question, comme on dit. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? À chaque fois, tu te plains. Est-ce que tu prends le temps aussi de parler au Saint-Esprit? Moi, il y a des choses que j'ai fait. Souvent, je prie. J'ai dit, Seigneur, voici, j'ai fait telle chose comme tu m'as demandé. Ou peut-être je prie, je dis, Père, je suis en train de prier, je désire par exemple une délivrance. Je dis, Père, je suis en train de prier, je demande une délivrance. Moi, j'ai demandé, c'est à toi de faire. Si tu ne fais pas, ne dis pas au dernier jour que je n'avais pas demandé. C'est comme ça que je priais même pour quitter certains péchés. Quand j'étais dans ces péchés-là, je disais, Père, s'il te plaît, je prie, je veux quitter ces péchés. Si je n'arrive pas à quitter, tu ne diras pas que moi, je n'avais pas demandé. Alors, fais quelque chose. Mais voici ce qui me répondait. Il dit, toi aussi, tu dois obéir. Tu dois écouter. Tu dois entendre quand je te parle. Parce que très souvent, on dit toujours, non, j'avais prié à Dieu, il n'a rien fait. Est-ce que tu avais obéi? N'est-ce pas qu'il t'avait dit, va chez tel frère, dis ton péché là. Tu as caché, non, si j'ai dit ça, on va, non, je ne vais pas, je cache ça pour moi. Ou dis tel problème à telle personne, ou va vers telle personne. Mais ton ego a refusé. Est-ce que nous écoutons Dieu lorsqu'il parle par le Saint-Esprit? Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Et de telles personnes, comment nous allons adorer Dieu en esprit? Comment nous allons vivre un réveil? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Rétablis ta relation avec le Saint-Esprit. Il a besoin de toi. Tu l'as longtemps attristé. Il a besoin de toi. Parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Oriente-moi comment prier. Oriente-moi comment faire les choses. J'ai besoin de toi. Amen. Alléluia. Sachant que le chrétien n'est pas maître de son esprit, nous dépendons du Saint-Esprit. Si on nous disait un jour que voilà, il faut élever ton esprit pour pouvoir adorer Dieu, on n'élève pas son esprit pour adorer Dieu. Même lorsque nous cherchons les choses d'en haut, comme c'est notre thème de l'année, nous devons les chercher avec le Saint-Esprit. Comment tu vas chercher les choses d'en haut? Avec ton esprit, tu vas l'élever comment? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et l'adoration, c'est aussi parmi les choses d'en haut. Parce que c'est ce que les anges font. Et pour mieux le faire, nous avons besoin de Dieu, du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième des choses que signifie adorer en esprit, j'ai dit d'abord, premièrement, c'est le cœur. Deuxièmement, avec le Saint-Esprit. Troisièmement, il y a la prière en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 14 à 15. 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Concernant les paroles en langue, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais donner mon témoignage. Vous savez, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. On avait l'habitude de prier les soirs. Les soirs, quand tout le monde se réunissait, tout le monde revenait du travail, les autres de l'école, on se réunissait pour prier. On chantait des cantiques et on priait. Moi, comme je n'aimais pas la prière, en complicité avec ma grande sœur qui s'est mariée, félicitations à elle. Alors, comme on n'aimait pas la prière, moi, j'ai trouvé une stratégie. C'est une sagesse que j'avais trouvée. À chaque fois qu'on priait, Étant donné qu'on ne voulait pas qu'on dorme, si tu dors, on te bouge, tu te réveilles. Pour qu'on ne me dérange pas dans mon sommeil pendant la prière, parce que ça m'embêtait, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais à genoux, je me posais sur les canapés comme ça. Là, ils sont en train de dire, non, on est un enfant magnifique. Non, Israël, vraiment. Non, mais ces garçons, oh là là, c'est lui-là. Comment il peut aimer Dieu comme ça? À son âge, il se met à genoux pour prier, pour adorer. Alors que moi, c'était ma stratégie pour dormir. Jusqu'à ce qu'un jour, quand ils ont compris ça, ils ont dit, ok, c'est lui qui dort, il s'élève. J'en priais comme ça, j'ai commencé à dormir, on m'a bougé, je me suis levé. J'ai dormi debout, jusqu'à la fin. Quand ils ont commencé à éteindre les lampes, Israël, oh, réveille-toi, on part. Oh là là, j'étais là, j'ai dormi debout. C'est comme pour vous dire mon état, l'état dans lequel j'étais en fait. La prière, c'est, voilà, c'était compliqué. La prière, c'était compliqué. Mais après que je fasse ma rencontre avec le Seigneur va me faire grâce d'entrer dans une chorale. Dans une chorale de jeunes, c'était mon cousin qui était là. Il y avait aussi mon grand frère qui était là. Et c'est par mon cousin que je suis arrivé dans cette chorale-là. Et c'est dans cette chorale, ils avaient la coutume, lorsque tu es un nouveau, il faut que tu passes par l'équipe d'intercession pour qu'on prie pour toi. Alors, une sœur est venue me voir, me disant, voilà, on va prier pour toi. C'est rien de grave, c'est juste qu'on prie pour toi. On partage un peu un temps ensemble et qu'on parle aussi pour question de te connaître, en fait. Parce qu'il y avait tous les encadreurs qui étaient là. Alors, je passe à l'intercession. Il priait de 16h, je crois, à 20h. Alors que moi, j'ai prié à peine 5 minutes. Donc, j'arrive. Là, j'étais arrivé un peu en retard parce qu'il y avait, la pluie. Une fois que j'arrive, les gens, ils priaient, tout ça là. Depuis, vous savez, j'ai grandi dans une église baptiste. Les églises baptistes sont vraiment très carrées. Vous voyez? Je n'ai jamais vu quelqu'un parler en langue. Je n'ai jamais vu quelqu'un prophétiser. Je ne savais pas ces choses. Je ne savais pas ça. Il n'y en avait pas dans l'église. L'église, c'était les cultes et bien organisés. Comme on l'a voulu, chacun rentre chez lui. Donc, je ne savais pas ça. Mais là-bas, j'arrive, j'entends des gens qui parlent de langues bizarres que je ne comprends pas. Et une sœur se met à prophétiser. Elle se met à prophétiser. Elle parle. Bon, je ne savais même pas si c'était prophétie. Donc, j'ai appris ça après. Elle parle. Elle dit, gardez-moi ces garçons. Il doit rester à l'intercession. Il doit rester ici, gardez-moi, il doit rester ici. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, moi, je prie 5 minutes. Les gars ici, quand ils prient, c'est de 16h à 20h. Moi, tu vas faire, c'est quoi mon utilité dans tout ça? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Or, le Seigneur me voulait là pour qu'il m'apprenne à prier. Je suis resté là. Et avec l'équipe d'intercession, petit à petit, je me mettais à prier 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et jusqu'à ce que j'ai pris l'élan. Et un jour, comme je l'ai dit, mon grand frère aussi était de la chorale et il était aussi un encadreur. D'ailleurs, j'ai douté même de la prophétie. Je me suis dit, c'est parce que mon grand frère était dans la chorale et puis moi, je suis venu. Ils se sont dit, voilà, il est le petit frère à tel. C'est qu'il a, ils ont la même correspondance, tu vois. Voilà les doutes scientifiques, doutes méthodiques. Toujours. Donc, une fois que j'entre dans cette chorale, on commence à travailler ensemble. On va faire une veillée. On faisait les veillées, on faisait les nuits de prière. Vous comprenez pourquoi j'aime faire les veillées avec les jeunes. On faisait des veillées et on avait une retraite de 3 jours à l'église. On était ensemble à l'église, on priait ensemble, on mangeait. Et on priait des fois de 0h à 3h, des fois de 22h à 3h avec les encadreurs. Alors le deuxième jour de ces moments de prière ensemble, de cette retraite, une sœur va lancer un chant alors qu'on était en train de prier. Vous savez, moi, on me reconnaissait à l'église. Parce que j'avais une manière de prier. Moi, lorsque je priais, j'avais toujours la tête levée et j'ai fermé mes yeux. J'étais toujours sur place. Je ne bougeais pas à gauche ou à droite. J'ai resté là et j'étais concentré. J'étais concentré parce que si j'ouvrais seulement les yeux, j'étais distrait. Je n'arrivais plus à prier. Alors, me connaissant, j'ai resté toujours concentré. J'ai fermé les yeux. J'avais toujours ma tête levée. J'ouvre la parenthèse en disant, lorsque nous prions, nous devons aussi être concentrés. Des fois, il y en a, tu sais que tu seras distrait en ouvrant les yeux, mais tu ouvres les yeux. Et puis tu ouvres les yeux, tu remarques que, ah ouais, il y a Destiné qui est arrivé en retard. Et puis tu commences à te dire, mais pourquoi il est arrivé en retard? Là, pendant l'adoration, hein, pourquoi il est arrivé en retard? C'est qu'elle a raté les bus. Non, elle s'est réveillée en retard. Non, je vais lui poser la question quand je vais le voir. Vous voyez, on est souvent des fois distrait. On n'est pas, on ne fait pas un spectacle, c'est comme l'autre fois je disais à Nicolas. On ne fait pas un spectacle. Ceux qui sont ici louent, vous qui êtes là, vous louez. Si ce n'est pas aussi obligé que tu chantes, Parce que si tu, à chaque fois tu chantes et que tu regardes là-bas et que ça te distrait, ben ferme tes yeux, prie. Prie pendant que les autres chantent. Vis la chanson en toi. Parle à Dieu. C'est important. Des fois, nous venons à l'église et nous rentrons. Pourquoi? On était venus, on a regardé les gens chanter, on a regardé les cultes, comment ça s'est passé. Et puis à la fin, on se salue, on rentre. Qu'est-ce que tu as vécu? Rien. Pourquoi? On n'était pas concentré. Chacun a sa manière de vivre Dieu. Il ne faut pas suivre les autres. Moi, maintenant, c'est ça. Je ferme la parenthèse en disant que moi, j'étais toujours concentré lorsqu'on priait. J'étais sur ma place, je ne voulais pas bouger à gauche, à droite et j'ai resté là. J'ai prié à fond. Et pendant que j'étais en train de prier à fond, une sœur va lancer un cantique. Et pendant qu'elle lançait ses cantiques, j'ai commencé à sentir une pression dans ma bouche. Je n'arrivais plus à maîtriser ma bouche et j'étais en train comme de changer de langue. Je ne parlais plus le français, mais j'étais en train de balbutier. Je ne savais pas trop, tu vois. Mais j'étais conscient. Ce n'est pas que j'étais inconscient. J'étais conscient. Mais je n'arrivais pas à arrêter ça. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, n'arrête pas ça. Parce que je savais que si j'ouvre les yeux, c'est mort. Donc, j'ai resté dans ça sans connaître, sans savoir de quoi il s'agissait. Et j'ai commencé à balbutier, jusqu'à répéter des langues dans une même syllabe. Ba, 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 ba. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et après un moment, je ne sais même plus là où je m'étais retrouvé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Je me suis retrouvé quelque part, je ne sais pas où, avec une sœur qui était en train de prier sur moi. Je ne savais pas en ces moments-là que j'étais en train de vivre le baptême du Saint-Esprit et que j'étais en train de vivre les parler en d'autres langues. Je ne le savais pas. Je ne connaissais ni la notion du baptême du Saint-Esprit, ni la notion du parler en langue. Quoique je le voyais à la télé. Et quand je le voyais à la télé, quand il y avait des gens qui priaient comme ça, bon, je ne les jugeais pas, mais je disais, mais quand même, il ne faut pas blaguer quand même. Tu es conscient et puis tu marches et puis tu dis oh, les langues que tu ne comprends pas, tout ça là, des trucs. Je disais, mais ils sont forts en invention. Hein? Donc, lorsque j'ai vécu ça, il y avait comme une voix en moi, à l'intérieur, qui disait, ce que tu as vécu, c'est ce que tu regardes à la télé. Mais comme je ne voulais pas, je disais, non, ce n'est pas ça, c'est sûrement autre chose, mais ce n'est pas ça. Et je n'avais pas aussi eu cette sagesse d'aller poser la question aux encadreurs. Donc, on a fini le temps, je ne savais pas que j'avais vécu un parler en langue. Et donc, j'ai continué à prier normalement, j'ai continué mon temps normalement. Quelques mois après, j'ai continué normalement. Et qu'est-ce qui va se faire? Voilà pourquoi je vous ai dit, le Saint-Esprit est bon. Lorsqu'il veut te faire comprendre quelque chose, il va créer des circonstances. Un jour, j'entends une chanson et dans cette chanson, il y avait le parlant en langue. Moi, je croyais que c'était de l'hébreu. Parce que la personne, lorsqu'elle parle en langue, moi, je croyais que c'était de l'hébreu. J'ai dit, ah, mais c'est fort, hein, il parle en hébreu et tout ça. On m'a dit, non, c'est le parlant en langue. J'ai dit, quel parlant en langue? C'est ce que j'entends à la télé. J'ai dit, oui, oui. J'ai dit, ah, mais c'est chantre, je l'aime. Pourquoi il fait ça lui aussi? Mais j'aimais, en fait, je sentais que cette langue, ça dégageait une puissance. Mais, tu vois, j'avais déjà une notion un peu difficile de la langue. Alors, ce qui va se faire, c'est que je vais tomber sur YouTube, sur la prédication d'un homme de Dieu de mon pays, qui a maintenant un ministère international. Je tombe sur sa prédication, il parle du parlant en langue. Il commence à expliquer. Tout ce qu'il expliquait, c'est ce que moi j'avais vécu à la veille. Je dis, oh, mais c'est ça, mais c'est ça. Et puis, il y en a dans la Bible. Et puis. Et j'ai compris, j'ai dit, waouh, j'avais vécu ça. Seigneur, je veux revivre cette chose. Je veux prier encore en langue. J'ai commencé maintenant à désirer ça. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut désirer. J'ai commencé à désirer. J'ai dit, je dois revivre ça. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je dois revivre ça. C'était puissant. Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal parlé de ça, alors que j'avais vécu ça sans même savoir que c'était ça qu'on appelle les parlants en langue. Et c'est l'une des choses que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque j'ai vécu avec Dieu, je ne savais même pas. Donc, les notions, les choses que j'ai vécues avec Dieu, je ne les savais pas, je ne savais pas qui c'était écrit dans la Bible. Je l'ai découvert après. Voilà pourquoi je vous dis que la Bible est vraie. Les choses qui sont écrites ici, c'est vrai. Parce que moi, je ne l'ai pas d'abord connu avant de les vivre. Parce que si je les connaissais, vous direz peut-être que c'est moi qui suis en train de fabriquer. Mais je les ai vécues, après j'ai connu, après que c'était écrit. Et dans une veillée encore, une fois de plus, on était à 5 ou 6. Pendant qu'on priait, c'est venu. Lorsque c'est venu, j'ai laissé. J'ai commencé à parler en langue. Et cette fois-là, j'ai même chanté en langue. Je ne savais pas, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprenais rien. Mais comme avec Dieu, des fois, on ne comprend pas, on y va quand même. Ce n'est pas que dans le domaine de la guérison, dans les miracles, même dans les expériences personnelles. Tu ne comprends pas pendant que tu pries une chaleur ou je ne sais pas moi. Vas-y, laisse. Tu ne comprends pas pendant que tu pries, tu sens comme si tu dois crier. Vas-y, crie. Oh non, si je crie, on va me regarder, on va me voir bizarrement. Mais tu vas rater une délivrance que tu allais vivre. Parce que la délivrance ne sera pas seulement lorsque tu iras au bureau où Bernard va prier pour toi. Mais la délivrance peut se vivre même pendant les cultes. Mais il faut que tu laisses l'action de Dieu se manifester et travailler. C'est là que j'ai vécu les parlants en langue. Et cette langue est puissante. Vous savez, des fois, lorsque nous prions, nous voulons prier des fois en hébreu, nous voulons des fois prier en anglais, ça dépend pour certains, pour ceux qui sont bilingues et tout ça là, polyglottes. Il y en a qui aiment bien prier dans une langue comme tout dans une autre, vous voyez. Par exemple, voilà, il y en a qui aiment bien prier en anglais qu'en français, ils sentent qu'en anglais c'est puissant. Mais je t'assure, lorsque tu pries en langue, l'anglais c'est bas, le français. Je n'ai pas le temps de dire « Seigneur, merci pour les guérisons, la guérison. » On dit quoi? Un guérison ou une guérison? Je n'ai pas les articles à poser dans les parlants en langue. Ça vient, ça coule. Il faut désirer les parlants en langue. Il y en a, vous avez vécu ça, mais vous avez négligé. Vous devez désirer ça. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue prie à Dieu d'abord et il rend des actions de grâce excellentes. Ainsi, tu peux rendre des adorations excellentes. Adorer en esprit, c'est aussi prier en langue. Dieu peut te faire grâce par son esprit, comme je l'ai dit, avec l'aide de son esprit, que tu pries en langue, que tu adores en langue, et tu verras que tu connaîtras Dieu dans une autre dimension et tu auras une perception de Dieu différente. Désire ça. Ce n'est pas un don qui est venu juste là pour s'amuser. Non, c'est puissant, car ça nous révèle certaines choses. Ça crée quelque chose de différent. Amen. Donc, je disais que prier, adorer en esprit, c'est aussi prier en langue. Parlons donc d'adorer en vérité pour que nous puissions finir. Qu'est-ce donc adorer en vérité? Alléluia. Jean chapitre 14, le verset 6. Adorer en vérité revient à être dans la vérité. Amen. Adorer en vérité revient à être dans la vérité. Et c'est quoi être dans la vérité? Jésus dit dans Jean 14, 5, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. La vérité, c'est Jésus. Et vous allez remarquer que lorsque Jésus parle de l'adoration, il dit que l'heure vient et l'heure est déjà venue. L'heure est déjà venue parce que la vérité est déjà là. Christ était la vérité. Il était déjà là. Et l'heure devait venir, pourquoi? Parce que la vérité devait être proclamée. Et quelle est cette vérité qui doit être proclamée? C'est la prédication de la foi, c'est la prédication de la croix. Qu'est-ce que cette prédication dit? Cette prédication dit que Christ est mort et Christ est ressuscité. Lorsque nous venons dans l'adoration à Dieu, nous venons par Christ Jésus. Nous venons par la vérité de Christ, la vérité de sa mort et de sa résurrection. Est-ce que nous nous souvenons encore qu'il y a eu quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité pour que nous ayons la vie? Et c'est dans ça que nous devons adorer. C'est là même les lieux. Ce n'est pas une question de la montagne, ce n'est pas une question de Jérusalem, c'est en Christ Jésus. C'est en Christ Jésus, et je répète, c'est en Christ Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Nous devons aller dire aux hommes que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. On nous a dit que c'était un faux semblant. On nous a dit qu'il n'était pas mort. C'est faux. Il était mort et il était ressuscité. Sans cela, il n'y a point de salut. Et nous devons tenir à cela. Beaucoup de jeunes sont en train de se perdre. Dans autre chose, pourquoi? Parce qu'on le dit que Jésus n'était pas mort et que Jésus n'était pas ressuscité. Ce qui est faux. Et nous devons tenir dans cette vérité. Nous devons adorer dans cette vérité, connaître cette vérité en profondeur. Et notre adoration sera parfaite. Là où les hommes étaient en train de tuer les brebis pour pouvoir faire des sacrifices, monter les autels, pour que Dieu puisse recevoir l'adoration. Nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices. Nous avons besoin de nous souvenir du sacrifice de Dieu, du Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, sans tache. Comment un homme peut-il naître d'une vierge pour faire simplement une mission de prophète et monter au ciel? Non, il est né d'une vierge parce qu'il devait être sans tâche ni défaut pour pouvoir mourir comme un agneau et ressusciter pour nous donner la vie. C'est en sa mort que nous sommes justifiés, c'est en sa résurrection que nous avons la vie et la vie en abondance. Ceci, c'est une vérité et nous devons la proclamer, nous devons la réclamer et je dois parler avec plein d'assurance sur cette vérité. Car c'est la vérité de mon salut. Et c'est dans cette vérité que nous devons adorer Dieu. Ô Seigneur, merci pour ton Fils. Tu as tant aimé le monde que tu nous as donné Jésus. L'adoration doit être christocentrique. Nous devons remettre Jésus au centre de nos vies. Nous devons remettre Jésus au centre de notre adoration. Nous devons remettre Jésus. Et nous devons prêcher la croix. Nous devons proclamer la croix. C'est là même qu'il y a la victoire. C'est là même qu'il y a la victoire. Tu veux une délivrance, tu veux une guérison, proclame la croix. Il y a une puissance derrière la croix. Vous savez, Tu dis que Dieu est un, tu dis que Dieu est un, c'est bien. La Bible dit, même les démons le savent et ils tremblent. Mais vous savez, à quoi sert une équipe de dribbler pendant tous les matchs et de ne pas marquer les buts? Parce que ce qui donne la victoire à une équipe, ce n'est pas les dribbles, c'est les buts marqués. Vous devez avoir plus de buts que l'adversaire. Vous voyez ça? Ainsi aussi, de la même manière, croire en Dieu, c'est bien, tu fais bien. Mais les buts marqués, c'était la mort et la résurrection de Christ. C'est là que nous avons eu la victoire. C'est là la victoire. Donc, Dieu a marqué un but qui nous a donné la victoire. C'est là, à la croix. Et si tu crois en Dieu, mais tu ne saisis pas la notion de la croix, tu n'as pas la victoire. Amen ou pas amen? Nous devons rentrer dans la prédication de la croix. Nous devons rentrer adorer Dieu par son fils Jésus. De la même manière que Jacob a pris un vêtement qui ressemblait à la peau d'Ésaü pour être béni par son père. Nous ne prenons pas la peau d'un animal. Nous entrons en Christ. Nous revêtons Christ pour que notre adoration soit parfaite. Dieu demande des adorateurs en vérité. Mais pour adorer en vérité, il faut reconnaître la vérité, celle de la mort, celle de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 18 à 25. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Ah, j'aimerais qu'on répète ça. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Français, Européens, Asiatiques. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Car la folie de Dieu est plus sage. Merci. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Mon dernier point pour pouvoir finir, on va prendre un petit temps de prière avant de clôturer. On aura aussi les vers de l'amitié. Adorer en vérité revient aussi à vivre ou sinon à marcher dans la vérité. La Bible dit dans le livre de 3 Jean, les chapitres 1, les versets 2 à 4. 3 Jean, chapitre 1, les versets 2 à 4. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Adorer en vérité, c'est aussi marcher dans la vérité. Dieu ne veut pas que nous puissions simplement parler, mais il veut que nos vies soient en adoration à lui. Que nous puissions marcher dans la vérité. Tu fais bien de dire, Seigneur, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais tu ne marches pas selon les commandements de Dieu. Comment tu dis dans ton adoration, Seigneur, je t'aime? Donc, ta marche aussi est une manière d'adorer Dieu. C'est une manière d'adorer Dieu. Et nous devons marcher dans la vérité pour adorer Dieu. Oh, combien nous sommes hypocrites dans les églises. Combien nous sommes hypocrites. Nous ne sommes pas vrais. J'ai dit souvent, vaut mieux vivre avec un sorcier que l'on connaît que vivre avec un hypocrite. Car l'hypocrite, c'est le sorcier que l'on ne connaît pas. Exactement. Je préfère vivre avec un sorcier que je connais. Ça, c'est un sorcier. Lui, là, c'est un sorcier qui est un hypocrite. C'est un sorcier que je ne connais pas. Je lui ferai confiance et après. Soyons vrais, frères et sœurs. S'il y a parmi les choses que Dieu m'a mis à cœur de dire à l'Église, c'est que nous puissions être vrais. Soyons vrais dans notre manière d'agir. Soyons vrais dans notre manière de prier. Soyons vrais dans notre manière d'être avec les autres. Il n'y a pas à faire l'hypocrite. Il n'y a pas à se cacher. D'ailleurs, rien de caché ne restera caché. Dieu va les mettre à nu. Donc, nous devons marcher dans la vérité. Et cette marche dans la vérité demande à ce que nous puissions écouter Dieu. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais pourquoi tu ne l'écoutes pas? C'est comme si je t'ai remetté ma carte bancaire, je t'ai dit, c'est toi qui vas commencer à gérer toutes les transactions. Mais après, quand je viens te demander et que tu refuses, moi-même, je vais, je commence à faire des transferts. Et toi, tu sers à quoi? Je t'ai donné ma carte pour que toi, tu gères. Mais moi, je commence encore à gérer. N'est-ce pas ce que nous faisons? Jésus, je te donne ma vie. On te baptise, tout ça, là, Seigneur, je te donne ma vie. Mais tu gères tout. Quand il parle, tu ne veux pas écouter. Tu sais même que c'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il te dit. Mais tu ne veux pas, tu veux faire comme toi, tu le penses. Est-ce une manière de marcher dans la vérité? Marcher dans la vérité, c'est aussi écouter Dieu. Bannir l'hypocrisie et être vrai. C'est capital, il est capital que nous puissions être vrais. Et il est aussi capital que nous ne puissions pas aimer, que nous puissions détester le mal. Détester le mal. Il est vrai, je te demande d'être vrai. Ne viens pas faire l'hypocrite en te masquant, en disant que toi, tu es bon. Combien de fois nous jugeons les autres alors que nous-mêmes, nous sommes dans les choses que nous jugeons? Ah, il fume. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en secret dans ta chambre? Ah, il fait ceci, mais toi, qu'est-ce que toi, tu fais alors? Ça, on ne le voit pas. Pourquoi? On n'est pas vrai. Quand tu es vrai, ça permet à Dieu de te délivrer de certains péchés. Ça permet à Dieu de te délivrer de beaucoup d'autres choses. Mais la chose importante aussi dans ta vérité, dans ta marche de la vérité, tu dois haïr les mal. Car il y a de ces personnes, quand on dit maintenant soyez vrai, allez, il commence à te raconter ses péchés, ses histoires. Il aime ça, il voit ça bien. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est que tu confesses, comme la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres pour que vous puissiez obtenir miséricorde. C'est dans ce sens-là. Et je comprends que l'Église primitive, ils étaient vrais. Parce que pour donner un tel message, dire que confessez vos péchés les uns les autres, donc il y a une partie de vérité. Il faut être vrai envers l'autre. Si tu as des souffrances, tu as des choses qui t'accablent, tu sais que ces choses ne marchent pas avec Dieu. Ça ne marche pas dans la marche avec Dieu. Ça, ce n'est pas bon. Mais sois vrai. Sois vrai envers Dieu. Certains même vont plus loin, faire l'hypocrite devant Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». Mais je leur répondais « Je ne vous connais pas ». Comment ça s'est fait? Mais parce que toi, quand tu viendras devant Dieu, tu seras à découvert, tu seras à nu. Et là, on va découvrir que tu étais un mouton, tu n'étais pas une brebis. Parce que tu jouais à la brebis lorsque tu étais sur terre. Mais là-bas, tu as découvert. Quand Jésus te regarde, il dit « Mais toi, c'est qui ?» C'est comme si Bernard venait auprès de moi toujours avec un masque et il changeait de voix. Le jour où il viendra avec son visage et il dira « C'est moi, Bernard, avec sa propre voix », je vais douter. Je vais me demander au garde, sortez-le dehors, il veut voler, il veut usurper l'identité de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne t'ai pas connu comme ça. De la même manière, le Seigneur nous dira, je ne te connais pas. Parce que tu as toujours marché dans l'hypocrisie, tu n'as jamais été vrai. Sois vrai, soyons vrais, mes frères et sœurs. À quoi me sert-il de dire à Bernard, je t'aime, ah, tu es mon pasteur. Mais il suffit que Bernard parte 2 semaines en vacances, lorsqu'il revient, la moitié de l'église est partie avec Israël. Il est normal que d'avoir de la jalousie, mais ce n'est pas normal que de rester dans la jalousie. Ça devient de la sorcellerie, excusez-moi. Bien sûr. C'est normal que d'avoir un petit problème avec l'autre, mais ce n'est pas normal que de rester dans ça. Si tu es jaloux, va voir ton frère. Dis-lui, je suis jaloux envers toi. Prie pour moi. C'est ça être vrai. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est mal d'être jaloux, mais je suis jaloux. Prie pour moi. Et demande la miséricorde de Dieu. Soyons vrais. Soyons vrais. En tout cas, c'est un fardeau que j'ai porté ce matin, c'est de nous dire soyons vrais. L'adoration, ça ne sert à rien d'adorer, de venir ici, si on n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Si à chaque fois on doit juger les autres, on doit juger l'adoration des autres. Ah, pourquoi il crie à haute voix? Ah, pourquoi il fait ceci? Ah, pourquoi il fait cela? Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que toi tu fais? On doit être vrai et dans notre manière de servir pour que Dieu puisse être glorifié. Alléluia. Et c'est comme je disais, c'est souvent les gens de l'Église qui nous rendent hypocrites. Vous voyez? On exige la perfection à tout le monde. Ah, tu dois être comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Comment je vais être vrai si à chaque fois je dois jouer à l'hypocrite? Si à chaque fois je dois avoir une certaine norme des choses que je dois accomplir? Non, vous devez m'aider. On doit s'aider. C'est lui qui prêche ici aujourd'hui. Si demain je commettais un péché, tu vas me pointer du doigt ou tu vas dire non, c'est mon frère, il m'est prêché, c'est le diable. C'est la chair, je dois le ramener. Si on n'est pas vrai, on va faire que juger les autres et il n'y aura rien. Hébreux 12, le verset 14. Pendant ce temps, je vais demander à Mathieu si tu peux m'aider avec les clavés. On va prendre même quelques minutes de prière. Et l'équipe de louange aussi, s'ils veulent bien m'aider, à part ceux qui vont danser. Hébreux 12, le verset 14. La Bible dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons à vivre dans la sanctification, à être vrai. » Je récapitule pour dire que les réveils que nous voulons vivre va se faire lorsque l'adoration sera en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est fini pour moi. Je vais nous inviter à la prière. Pour ceux qui voudront bien se lever, vous pouvez, si vous voulez, vous soyez libre. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions prier ensemble. Nous puissions prier ensemble par rapport à ces messages. Si tes messages t'a parlé, prie à Dieu par rapport à ton cœur. Si tu n'es pas vrai, réponds-toi. Parle à Dieu. Je veux vraiment que tu parles par rapport à ces messages. J'aimerais pas que nous puissions rester là sans rien dire, mais j'aimerais que chacun de nous parle avec son cœur. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Je nous invite tous à la prière. Prions le Seigneur. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas. Prie le Seigneur de ton côté.